Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio PFM 99.9 pour l'Actuality Team, l'émission de débat entre lycéens. Et avant de commencer, voici une musique qui devrait vous indiquer notre sujet de la semaine. Avec la légalisation de la PMA, la question de la place du père est posée. Est-ce vraiment gênant pour l'enfant de ne pas grandir autour de deux parents hétérosexuels ? La société évolue, fort heureusement, les mentalités aussi. Alors, la PMA, normale ou pas ? On en débat pendant 30 minutes avec l'Actuality Team sur Radio PFM 99.9.
Quoi, qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu.
Aujourd'hui, nous allons donc parler de la PMA et évidemment, je ne suis pas seul pour vous en parler. Je suis entouré de Sarah Florentine, bonjour.
Bonjour.
De Jeanne.
Salut.
De Thomas.
Bonjour.
D'Arthur.
Bonjour.
De Eudes.
Salut.
Et de Julie, à la régie, qui vous fait bonjour. Et je laisse Arthur vous présenter notre sujet de la semaine.
Merci Thibaut. Un premier obstacle franchi, mercredi 11 septembre dernier, la PMA pour toutes a obtenu son premier feu vert, mesure phare du projet de la loi bioéthique initiée par le gouvernement. L'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes a été votée par la commission spéciale de l'Assemblée nationale. Après de longs débats, marqués principalement par les vives réticences des deux députés Les Républicains, la commission a voté l'article 1 qui élargit la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. Le projet de loi est examiné dans l'hémicycle depuis le 24 septembre. Dans le guide pratique qui sera remis aux personnes réalisant une PMA, vont être aussi ajoutés des éléments d'information sur l'accès aux origines du futur enfant. Dans l'ensemble, les discussions sur cette loi se sont principalement résumées à un bras de fer entre la majorité et les élus LR, plus hostiles à la PMA. D'emblée, ils ont donné le signal qu'ils ne rendraient pas les armes, d'abord sur la forme, en s'inquiétant de leur temps de parole ou du comportement monolithique de la majorité, puis sur le fond, en s'inquiétant d'une PMA sans père et menaçante pour l'intérêt de l'enfant. Ce sont donc des problématiques d'affiliation, de construction pour l'enfant et d'origine qui se posent.
Très bien, merci beaucoup Arthur pour cette présentation concernant notre sujet de la semaine qui est donc la PMA. Ma première question, elle est très simple. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'ouverture de la PMA aux femmes homosexuelles et célibataires en France ?
Moi, je suis pour parce que je vois pas pourquoi elles auraient pas les mêmes droits que nous. Mmh. Et puis, elles peuvent pas avoir d'enfants sans avoir la PMA. Donc, je pense que c'est une bonne chose que la PMA soit autorisée.
Très bien.
Moi, je pense que ça peut être une bonne chose, mais ça peut avoir un côté négatif. Est-ce que ce serait pas gênant, une absence de père ? Est-ce que ça pourrait pas causer des troubles à l'enfant ?
D'accord. Juste pour continuer, et on reviendra sur la question de la place du père après, est-ce que vous êtes pour ou contre les garçons à ma gauche ?
Moi, je suis plutôt pour, avec D'accord. une petite nuance, parce que je pense que, même si moi, je suis pas de l'école, il faut avoir un père, une mère, je pense que ça va être plus difficile avec une seule mère, et donc plutôt privilégier deux parents.
D'accord, donc tu émets aussi des réserves concernant la place du père, Arthur ?
Mais moi je suis pour parce que la PMA répond à un réel besoin chez les femmes d'avoir un enfant. Il faut comprendre la frustration de ces dernières qui parfois ne peuvent pas avoir naturellement ou dans le cadre de l'homosexualité également ne pas avoir d'enfant. Donc il faut comprendre leur frustration et d'un autre côté il faut aussi s'inquiéter pour la construction de l'enfant, la construction personnelle. Est-ce que ça va susciter des manquements ou non ? Est-ce que le fait d'avoir deux mamans, c'est peut-être plus riche que d'avoir un père, une mère ? Beaucoup de questions comme ça.
D'accord, donc beaucoup de questions aussi concernant la place du père. On va en parler juste après. Thomas, ton avis ?
Alors moi, je suis plutôt pour, mais je suis quand même assez neutre dans l'histoire. Mm-hmm. Ça permet bien sûr aux femmes d'avoir un enfant, donc c'est quand même une bonne chose au final. Mais après...
Après, d'accord. Donc, vous émettez tous un peu des réserves concernant la place du père. J'aimerais t'écouter un peu, Sarah Florentine, concernant ce que tu en penses, tout simplement.
Bah, je pense que c'est important d'avoir une figure paternelle, parce que je pense que ça peut provoquer des troubles parfois. Moi, je connais des personnes qui pensent que ça a changé les choses avec leurs enfants, que leur père ne soit pas assez présent. Et je pense qu'avoir deux mamans, ça peut faire une différence, et pas forcément une différence positive.
Donc une différence plutôt négative. Selon toi, est-ce que quelqu'un partage un peu le même point de vue que Sarah.
Ouais, mais c'est sûr. Bah, ça, bah, un père, c'est, c'est un peu essentiel dans la construction d'un enfant, enfin dans la construction pour les bases un peu qu'il doit acquérir dans la vie. Enfin, c'est un peu l'autorité parentale, quoi. C'est...
D'accord.
Moi, je pense qu'une mère, ça peut très bien jouer le rôle d'un père. Enfin, je pense qu'une mère a pas un rôle particulier dans l'éducation et un père a pas un rôle particulier. Je veux dire, si l'enfant a deux mères, bah, elles vont lui apprendre les mêmes choses qu'un père et qu'une mère. Et après, enfin, je veux dire, l'esprit paternel, il pourra toujours l'avoir avec ses grands-parents ou avec ses professeurs. Ou... Enfin, je pense pas que le fait de pas avoir de père, c'est quelque chose de mauvais. Il y a plein d'enfants qui voient plus leur père et qui grandissent très bien.
Ce que tu dis est juste, c'est vrai. Dans une société où il y a une forte augmentation des séparations, du divorce, est-ce que c'est pas plus mal, en fin de compte, d'avoir quand même deux personnes référentes plutôt que d'en avoir une seule ou pas du tout parfois dans
certains cas. C'est ça, parce que finalement, les femmes qui sont homosexuelles et qui veulent un enfant, bah, elles vont pas faire la PMA, ok, mais en fait, finalement, il y a une des deux qui va tomber enceinte et l'autre, elle va pas être connue. Et enfin, au final, ils auront toujours deux mères et ça sera toujours la même chose. C'est juste que là, la deuxième mère a une vraie légitimité. Enfin, c'est quelque chose de bien, je trouve.
Donc il y a une mère, si je comprends bien un peu ton propos, il y a une mère qui aura un statut plus élevé dans le rôle de l'éducation
aujourd'hui,
de l'enfant par rapport à l'autre ?
Non, pas du tout, elles auraient exactement le même statut. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, vu que les femmes homosexuelles n'ont pas le droit de faire de la PMA, quand il y en a une qui a un enfant, il n'y en a qu'une qui est reconnue comme mère et la seconde pas du tout. Alors que maintenant, ça serait les deux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ah oui, c'est et, juridique. Oui.
Et je trouve que c'est totalement légitime parce que de toute façon, dans la vraie vie, c'est déjà comme ça. Donc pourquoi... Enfin, pourquoi refuser quelque chose qui existe déjà, en fait ?
D'accord. Eudes, concernant la place du père, tu nous en as un peu évoqué.
Après, pour moi, c'est plus une question de mœurs. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on a une éducation qui dit qu'il faut un père, une mère. Mais moi, je suis d'accord. Enfin, je vois pas pourquoi il faudrait obligatoirement un père. Les deux parents peuvent très bien jouer un rôle, en fait. Ça dépend de l'éducation. Il y a pas, c'est parce que c'est une femme, elle pourra pas assurer un rôle convenable que pourrait jouer un homme. Moi, je pense que c'est pas tout à fait vrai.
Tout à fait vrai. Donc c'est une question aussi d'éducation et de la société. Et donc, je disais là dans mon intro que la société évolue. Est-ce que vous partagez ce sentiment ou pas vraiment ?
Ça évolue, oui, c'est sûr, parce que par rapport à il y a 100 ans, si déjà on avait dit deux femmes vont se marier, mon Dieu, voilà. Donc oui, ça évolue. Après, c'est pas encore, on n'est pas à un stade où tout le monde pense que des femmes peuvent avoir des enfants. Enfin, on le voit très bien, s'il y a des débats comme ça au Parlement, à l'Assemblée nationale, c'est que les mentalités sont pas encore très très évoluées, quoi. Elles sont évoluées, mais pas encore totalement, quoi.
Tu peux même prendre une plus petite échelle que 100 ans, il y a 20 ans,
ouais, oui, il y a 20 ans. À 20 ans, ça a commencé, mais c'était tout doux, quoi.
D'accord, Sarah Florentine.
Moi, je pense qu'elle a quand même vraiment évolué, parce que comme vous dites, il y a 20 ans, on ne voyait pas ça, et je trouve que même si ce n'est pas reconnu partout, c'est un énorme pas en avant.
D'accord, donc la PMA a un énorme pas en avant, pardon, pour toi. Thomas, qu'est-ce que tu en penses ?
Après, il y a certains pays aussi qui reculent aussi, pas forcément par rapport à ça, mais je vois aussi par rapport au...
Ouais, en France, hein, on parle.
Oui, non, mais je sais, mais par exemple, les États-Unis, ils revenaient un peu sur l'avortement, ce genre de choses. Donc, je sais pas, c'est pas trop de rapport.
D'accord, non, t'inquiète pas. Vas-y, à toi.
Bon, pour moi, c'est certain que la société évolue. Bon, elle a toujours évolué, mais je me demande si avec les technologies, les études, on n'aura pas une société qui évolue plus rapidement. Donc, comme on le disait, il suffit de regarder les graphiques de l'acceptation de l'homosexualité, par exemple. C'est quelque chose qui était impensable il y a des dizaines d'années, mais l'acceptation, aujourd'hui... elle est plutôt proche des 100% que des 0. Donc une personne qui est homophobe sera plus discriminée qu'une personne qui est homosexuelle, je pense.
Après, aujourd'hui, on fait énormément de prévention, même dans les écoles, on en parle souvent dès le plus jeune âge. Donc je pense que ça aide aussi. Enfin, des enfants, si dès qu'ils sont petits, on leur dit c'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose qui est pas mal, je pense que ça va aider. Et au fur et à mesure, ça va être de mieux en mieux parce que les enfants, ils vont avoir dans l'esprit que finalement, être homosexuel, c'est comme être hétérosexuel, quoi.
Après, pour moi, ça c'est, l'éducation en fait, elle suit l'évolution, donc elle s'adapte à l'évolution, ouais. Donc c'est une question de, c'est tous les deux sont en corrélation.
D'accord, donc c'est une prévention, une éducation qui doit se faire par l'éducation. Si je comprends bien ce que tu nous dis, Jeanne, Sarah Florentine, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que l'école a un rôle à jouer là-dedans et ce dès le plus jeune âge ?
Oui, je pense que l'école a un rôle à jouer parce que, comment dire, si les gens n'auront pas de honte, ils n'auront pas de problème à faire leur choix. C'est-à-dire si ils avaient peur d'être homosexuels, par exemple, là, ils n'auront pas de problème à s'afficher, ce genre de choses. Donc je pense que ça aide les gens à s'affirmer et à faire leur choix.
D'accord, Thomas ?
Ouais, c'est sûr, mais après, il y a encore du travail à faire, quoi. Je veux dire, on n'est pas encore très ouvert d'esprit tout le monde là-dessus, quoi.
D'accord, donc encore beaucoup de travail à faire. Est-ce que c'était le bon moment pour instaurer ça, pour légaliser la PMA? Est-ce que la société est prête actuellement à accepter ça?
Bah, je pense que c'est, ouais, c'est un bon moment pour le faire. De toute façon, la société ne sera jamais totalement prête. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas prêts, qui ne voudront pas. Donc, il faut le faire à partir, enfin, au bout d'un moment. Et je pense qu'il y a eu, je sais plus, 4 ans, 3-4 ans, le mariage homosexuel. Donc là, c'est bon. C'est...
C'était en 2013, oui.
Ouais, plus que ça.
Sous le quinquennat de François Hollande, mariage homosexuel porté par Christiane Taubira. Arthur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'était le moment pour le faire?
Oui, tout à fait. Je reprends le propos de Jeanne. Hein. C'est un cheminement de toute façon qui s'effectue par étapes. Et le mariage pour tous en était une parmi d'autres.
Ouais, c'est ce que je voulais dire.
Voilà.
D'accord, donc c'est un peu la suite logique, si je comprends bien ce que tu nous dis.
Logique, pas forcément, puisqu'il y a des détracteurs, mais. Une certaine.
Bah, quand on regarde au niveau international, bon, je dirais pas qu'on est en retard parce que c'est pas le mot exact, mais il y a déjà pas mal de pays qui ont adopté la PMA, notamment l'Espagne, Portugal, l'Angleterre, et donc c'est quelque chose qui est assez actuel. Et donc, oui, on est en droit de se poser la question.
Voilà,
de
la France de mettre se le débat met sur table. Un petit peu en conformité des pays qui ont déjà fait le pas vers.
Après, la PMA. On fait pas des lois pour être en conformité avec les autres pays. Hein. On le fait parce qu'on pense que c'est bien.
Oui, bien sûr, mais on peut s'en inspirer aussi.
Oui, oui, carrément.
Effectivement.
Du coup, ça marque la progression, notamment parce que les pays progressent ensemble. Enfin, tout dépend des pays, mais là, dans l'Union européenne, je parle.
Et le fait que ce soit l'Union européenne, c'est quelque chose de bien, que cela s'instaure en France, pardon. Vas-y Thomas, je t'écoute.
Après, j'ai un peu l'impression qu'il y a un peu un je m'en foutisme social, si je peux me permettre. Enfin, les gens sont pas trop intéressés par ce débat, j'ai l'impression. Je vois le nombre de députés qui étaient à la séance... Pour signer cette loi, enfin, ils étaient
40 à tout casser,
55 hein. à voter oui et pour 12 qui votaient non, quoi. Pour 500 places.
Ça vous étonne que les débats n'aient pas autant passionné les foules que pour le mariage homosexuel où il y avait eu des jours et des jours de débats à l'Assemblée nationale?
Ça reste quand même une loi qui vise un public restreint, qui va impacter un public restreint.
Ouais, mais le mariage homosexuel aussi, Arthur. Enfin, c'était pas, je veux dire, il y a pas...
Ils visent quasiment le même public,
bah
on va
dire. Bah ouais,
c'est
la même chose.
Et donc, d'ailleurs, je n'ai pas le souvenir qu'il y a eu une grande mobilisation de la part des députés.
Pour le mariage homosexuel. Le
mariage homosexuel, si, il y avait la manifestation pour tous.
Il y avait la manifestation
pour tous. Surtout,
non, pas par rapport à ça, par rapport à la participation des représentants, des...
Oh bah si, vu que dans la rue, il y avait énormément de monde, les députés... Ah,
ouais, je pense qu'ils ont dû s'inquiéter un peu du sujet.
Ouais,
il y avait eu beaucoup de débats.
Ouais.
Après la PMA, moi je trouve que c'est quand même d'une importance qui est moins, enfin c'est moins important que le mariage pour tous, parce que la PMA ça concerne une minorité de personnes, même si en soi le sujet est intéressant et important c'est important d'en parler, mais c'est pas quelque chose qui est majoritaire.
Puis il y avait d'autres personnes qui soulignaient un autre point par rapport au PMA, c'est que ce serait plus on servirait de la science, pas pour pas de la science mais des des progrès médicaux, oui, pour pas pour guérir, mais pour assouvir un désir. Donc ça, chez certains, ça pose un problème. Donc, je sais pas si vous.
Après,
pose problème.
Je pense que c'est plus une question philosophique. Est-ce que avoir un enfant, c'est un désir, ou c'est, est-ce que ça, on considère l'enfant comme un objet ou comme une personne? Donc ça, c'est, pour moi, c'est pas un débat qui est général. Ça dépend. En fait, c'est un débat qui est à faire cas par cas. Est-ce que la personne veut juste un désir égoïste, ou est-ce qu'elle est prête à élever un enfant?
Ça, c'est pareil pour tous. Enfin, je veux dire, les parents avec un homme, une femme, quand ils veulent un enfant, est-ce que c'est un désir ou est-ce qu'ils vont vraiment s'en occuper? Enfin, je veux dire.
Du coup, est-ce qu'on peut refuser à quelqu'un d'assouvir ce désir d'avoir un enfant?
Si on l'autorise aux autres, pourquoi on l'autorise pas à eux, quoi.
D'où la question du PMA.
De la PMA, très bien. Écoutez, on se retrouve, on fait une petite coupure musicale, pardon, et on se retrouve juste après pour la seconde partie de l'Actuality Team sur Radio PFM 99.9. On parle de la PMA.
Baby, we did you wrong, we can make it right. So go and let it all hang out tonight. Cause we don't love you anymore. So walk your fine ass out the door. And do your hair talk, check my nails. Baby, how you feeling? Hair talk, check my nails. Baby, how you feeling? Hair talk, check my nails. Baby, how you feeling? And we gon' be all hair talk, check my nails. Baby, how you feeling? Yeah. I listen. If he don't love you anymore, then walk your fine ass out the door. And do your hair talk, check my nails. Baby, how you feeling? Hair talk, check my nails. Baby, how you feeling? Hair talk, check my nails. Baby, how you feeling? And we gon' make your hair.
Et on est reparti pour la seconde partie de l'émission. Allez, de l'Actu et Teams sur Radio PFM 99.9. On parle toujours de la PMA. Et je voulais aborder une autre question, pardon. Est-ce que l'ouverture de la PMA, selon vous, c'est aussi synonyme par la suite de l'ouverture à la GPA, la gestation pour autrui, et donc ce système de mère porteuse, selon vous?
Alors, moi, je sais pas, je réponds pas à ta question.
Mais c'est pas grave, vas-y, c'est pas grave.
Je suis pas forcément pour la GPA parce que je trouve que c'est un peu de la. Je sais pas comment dire ça, mais de la marchandisation.
Du marchandage, ouais.
Du marchandage du corps des femmes.
D'accord.
Je suis pour la PMA parce que je trouve que c'est quelque chose qui a un droit. Mais la GPA, je suis un peu. Payer une femme pour qu'elle porte ton enfant, je sais pas si. Je sais pas si moi j'aurais envie de le faire et je sais pas si les femmes elles feraient ça vraiment parce que elles ont envie d'avoir un enfant. Enfin, ça devient un peu on a des enfants pour avoir de l'argent quoi. Et je sais pas si c'est forcément quelque chose de bien.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ça, en fait, le problème c'est que si on fait passer la PMA, la GPA, à mon avis, c'est quelque chose qui va suivre par souci d'égalité. Mais le problème c'est que dans les conditions physiques, le marchandage du corps c'est quelque chose qui est assez dérangeant finalement.
D'accord, Thomas, tu penses quoi de la GPA, toi ?
Je suis pas sûr qu'elle va suivre, moi. Enfin, je veux dire, si la PMA, ça pourrait suffire.
Non, je vous posais juste la.
Parce que la PMA, c'est pris en charge par la Sécu, il me semble, en plus.
Ouais, ça va être pris donc, en charge à la Sécu. Par la Sécu.
Donc pourquoi payer quelqu'un alors que tu peux avoir ça gratuitement ? Enfin,
parce que
c'est pas gratuit, mais.
C'est un système qui serait plutôt réservé aux hommes, on peut dire, la GPA.
Ouais.
C'est pour ça, est-ce que tu es pour ou est-ce que tu es contre un peu ?
Je rejoins un peu les points de vue précédemment cités.
D'accord.
Mais je trouve ça un peu moralement un peu, enfin c'est un peu bizarre quand même.
C'est vrai que c'est pas très égalitaire pour les hommes qui du coup ont pas d'autres moyens. Mais après moi ça me pose un peu un problème c'est peut-être parce que je suis une femme et je me dis c'est un peu elle porte son enfant pendant
9 mois
et elle le garde pas quoi. Enfin après elle a le droit de pas le garder mais là c'est pas vraiment elle qui choisit de pas le garder. Enfin c'est un peu.
C'est imposé.
C'est pas comme si elle le donnait. Enfin comme si elle le faisait adopter quoi. C'est pas pareil je trouve. C'est. Je sais pas c'est voulu quoi donc je sais pas ça me pose un problème.
D'accord. Sarah Florentine qu'est-ce que tu en penses?
Moi je suis assez d'accord parce que je trouve que à ce moment-là enfin c'est peut-être un peu extrême mais le corps de la femme il est un peu considéré comme une marchandise et enfin. Je sais pas trop si je suis pour ou contre, mais ce point de vue-là, je trouve que c'est vraiment négatif, quoi.
D'accord. Arthur, qu'est-ce que tu penses de cette question de la GPA ?
Alors, la GPA. Moi, je pense déjà qu'il faut bien définir les modalités de la GPA. Est-ce qu'on parle d'une GPA payante ? Est-ce qu'on parle d'une GPA gratuite ?
Je pense qu'on parle d'une GPA...
Les femmes vont pas être enceintes gratuitement.
Détrompe-toi. Il y en a qui le font dans certains pays, gracieusement.
Oui, mais à ce moment-là,
quelle
c'est
charité.
Pas... Non, limite, mais... je trouve ça encore pire, quoi. Enfin, elle est enceinte, elle donne son enfant, et finalement...
Mais tu as des personnes comme ça, hein. C'est, je pense qu'on peut établir d'ailleurs un rapport avec la religion, qui prône... Bon, après, on part dans les religions, mais je pense à Louise, qui est catholique pratiquante. Elle est très dans l'assistance, dans l'aide, dans la bienveillance.
Oui, enfin, je pense que Louise ne ferait pas de la GPA.
De même... Non, bien sûr, j'entends bien, je connais les... la position des Louise sur ce sujet. Mais je pense que, effectivement, ça peut être une forme d'assistance que certaines femme veuille bien porter un enfant gracieusement pour des hommes qui ne peuvent pas avoir d'enfant. Je pense pas que la GPA est nécessairement payante. Après, souvent, ouais, après en souvent, France. Mais pas tout le temps.
C'est assez utopique, surtout que ça, même si c'était le cas, la demande par rapport à l'offre, entre guillemets, oui, c'est un peu commercial, mais ça serait vraiment très minoritaire, donc je pense que c'est pas très.
Je pense qu'on n'a pas 50 000 Mère Teresa en France, quoi. Donc,
C'est sûr.
Très bien, très
bien. Je le concède.
Donc, du coup, pour revenir à ma question initiale, la GPA suite de la PMA, point d'interrogation ? Pas forcément ?
Moi, pas forcément, non.
Pas forcément ?
Pas forcément.
Pas forcément non plus ?
Pourquoi pas ? Mais pourquoi moi, c'est vrai que je vois un rapport aussi, par exemple, avec le don de sperme qui est, dans certains pays, fait gracieusement.
Attends, entre faire un don de sperme et porter un enfant 9 mois, il y a quand même une petite différence.
J'entends bien, mais
hein.
Tu vois, tout le côté gratuit.
Oui, hein, le gratuit. Ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse différence quand même, 9 mois contre quelques...
Mais sur le principe aussi.
Et puis le don de sperme, enfin, désolé de dire ça, mais il n'est pas attaché à son sperme, alors que c'est un enfant quand même. C'est...
Bah, tu sais, si, quand même, psychologiquement... À tes pères quand même d'un
être. Tes pères biologiques d'un enfant, c'est vrai ?
Ben oui.
Ouais, mais je sais pas. On connaît pas l'enfant, alors que la femme, pendant 9 mois, elle le porte.
C'est quoi ta vision ? T'es sur une vision matérialiste ?
Bah ouais, c'est un peu ça, Karl Marx.
Non.
Ce que tu nous as dit sur le don de sperme, c'est intéressant parce que justement, c'est une des questions que soulève la PMA aussi. Jusqu'à aujourd'hui, le don de sperme, celui qui donne son sperme, garde l'anonymat, c'est-à-dire que son identité... est protégé, et à partir de maintenant, l'identité ne serait plus vraiment
protégée. Donc, question d'affiliation.
Voilà, comme tu dis, Arthur, est-ce que c'est une bonne chose de lever le voile sur l'identité du donneur de sperme, ou pas, selon vous ?
Moi, je trouve que c'est bien. Enfin, si le donneur de sperme sait que son identité est divulguée à l'enfant, et qu'il continue à le faire, je trouve que c'est bien, parce que l'enfant, c'est pas lui qui a choisi de pas savoir qui était son père. Donc, si à un moment, il a envie de savoir, de connaître d'où viennent ses origines, de connaître sa famille paternelle, bon, je trouve pas que ce soit une mauvaise chose.
En soi, à partir du moment où les deux sont en accord pour se rencontrer et puis échanger, c'est vrai que ça pose
après, l'enfant voudra peut-être pas forcément savoir qui est son père. Enfin, je veux dire, peut-être qu'il se dira, bah non, finalement, j'en ai pas besoin. Mais s'il veut savoir, je pense qu'avoir des réponses à ces questions, c'est bien.
D'accord, Sarah ?
Oui, bah, c'est à peu près ce que j'allais dire. Je trouve que ça doit être un choix. Il a la possibilité de savoir qui est son père. Et ça, je trouve ça bien.
Thomas ?
C'est ça, ça doit rester un choix, je pense.
Un choix ?
Ouais, moi je suis assez d'accord aussi.
Eux aussi, un choix, d'accord. Est-ce que c'est pas un peu contraignant pour le donneur de sperme de savoir que son identité peut être révélée à tout moment ?
Bah après, il sait, hein. Enfin, je veux dire, il le fait en connaissance de cause, donc...
Il fait en connaissance de cause, d'accord. Mais est-ce que ça peut...
Ça peut être un frein, c'est sûr.
Voilà, être un frein, c'est le mot que je cherchais, merci Eudes. Est-ce que ça peut être un frein ?
Il y a certaines personnes qui vont pas vouloir le faire sans avoir le couvert de l'anonymat, mais bon, après, ça c'est... voilà.
D'accord, Arthur.
Ouais, c'est le problème, c'est que ça va dissuader certaines personnes effectivement de faire leur don.
Après, c'est est-ce que c'est plus important d'avoir énormément de dons de sperme pour faire énormément d'enfants, ou est-ce que c'est plus important que l'enfant à 18 ans, s'il a des questions, puisse y répondre et puisse savoir d'où il vient.
Oui, c'est sûr, parce que c'est vrai que tôt ou tard, on est toujours en quête de ses origines.
C'est un peu avantage inconvénient, quoi.
D'accord. Est-ce que quelqu'un a un dernier mot à rajouter avant la clôture de cette émission?
Non,
pas spécialement. Très bien, écoutez, c'était l'émission de l'Actuality sur Radio PFM 99.9. On a parlé de la PMA ensemble pendant 30 minutes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux débats. À la semaine prochaine.